Campus Bordeaux.
Point 1.1.88.1.
Campus Bordeaux 88.1.
Il est 13h et c'est à présent l'instant invité et interview. Aujourd'hui, nous recevons sur notre antenne l'association Les Calandreux d'Antan avec en guise d'invité Olivier Boucheron-Seguin. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Alors, si on vous reçoit ici aujourd'hui, c'est pour parler de votre association. On va en dire un peu plus, mais aussi c'est dans le cadre d'une plantation d'arbres qui a eu lieu le jeudi 17 novembre dernier. Une plantation de 100 arbres au bois de Mandavite. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi Nicolas qui est en studio pour cette interview.
Bonjour à tous.
Et Justine qui est toujours là depuis le début de l'émission.
Je n'ai pas bougé.
Alors, je reviens vers vous, Olivier Boucheron. Est-ce que vous pourriez nous présenter les Calandreux d'Antan ? C'est donc une association destinée à préserver le patrimoine automobile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, ses buts, ses actions, ses missions ?
C'est une association qu'on a fondée en février 2015. À la suite d'une soirée des forces vives du maire, aux forces vives. Donc il y a une soirée, un pot qui est organisé tous les ans où le maire fait le point de l'année. Et on discutait de voitures avec deux personnes et on s'est dit, mais il n'y a pas de club de voitures. Donc c'est de là que c'est parti et on a créé ce club en février. Donc ça fait 7 ans. Alors, ce jour, on a 125 membres. La moyenne d'âge, il n'y a pas de moyenne d'âge, mais ça va de 18 à 87 ans, donc c'est vraiment très large. On a le but du club, comme vous le disiez, c'est de préserver le patrimoine automobile des adhérents, parce que c'est un vrai patrimoine, c'est une richesse. Entraide au conseil et cours de mécanique, cours de soudure. Il y en a qui ne savent rien, d'autres qui savent beaucoup. Donc c'est l'occasion de se relier, oui. Ensuite, à l'activité, on a un rassemblement mensuel qui est le quatrième dimanche de chaque mois. C'est le matin. C'est sur le parking du lycée des Graves, sauf en juillet et en août. Ça, c'est la trêve des confiseurs. Nous participons ensuite à des manifestations régionales, des rallyes, des manifestations nationales aussi, des rallyes touristiques. Le Téléthon, exposition sur des thèmes, c'est-à-dire qu'on va dans des châteaux, on va là où on nous demande de temps en temps si on est libre, on y va. Ensuite, on a nos propres rallyes. Cette année, c'est la première année. On a fait un rallye en Sardaigne pour les inscrits ceux qui étaient inscrits du club pour le Maroc. Le Maroc n'ayant pas eu lieu, non pas pour cause de Covid, mais pour cause de différents politiques entre la France, entre l'Espagne et le Maroc. Donc ça a été annulé. Donc nous, on était inscrits, enfin on était cinq membres inscrits, et on a fait un raid 4x4 en Sardaigne. Très amusant. À la suite de ça, on a fait le Tour de Corse. Donc voilà, nos activités. On a un dîner mensuel qui permet de garder les contacts entre ceux qui ne peuvent pas venir au rassemblement. Alors, si vous voulez, on peut parler des voitures de collection.
Oui, bien sûr. J'allais demander justement le patrimoine automobile. C'est quoi concrètement ? Qu'est-ce qui est patrimoine ? Quel type de voiture ?
Alors, la définition du mot collection, voiture de collection, c'est une voiture qui a 30 ans. Minimum. Ça, c'est le béaba. Ensuite, il faut qu'elle soit en état d'origine. Voilà. Une fois que ça s'est lancé, vous avez les bases pour pouvoir passer en carte grise de collection. C'est une démarche qui n'est pas très, très compliquée. Il y a un dossier à remplir. On envoie ça à l'FVE, c'est-à-dire à la Fédération française des véhicules d'époque, qui vous délivre une attestation. Et à partir de ça, vous pouvez vous la faire matriculer en collection.
Alors, ça change quoi que la voiture soit immatriculée en collection ?
Alors, ça va changer pas mal de choses. Ça change que vous pouvez rouler n'importe quand. Vous n'avez pas le droit, par contre, de rouler pour faire du business. C'est-à-dire que les artisans avec leur camionnette qui a plus de 30 ans ne peuvent pas s'en servir au quotidien. On ne peut pas non plus, en tant que particulier, s'en servir au quotidien pour aller au travail.
Mais est-ce qu'on peut s'en servir quand même tous les jours ?
On peut s'en servir tous les jours pour aller chercher son pain, se balader. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. C'est une règle. Alors, il faut savoir que les véhicules de collection font, en moyenne, 1071 km par an.
Ce qui n'est pas beaucoup.
Et les motos, 673. Vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. C'est, y a une grande enquête qui a été faite par la FEVE en 2021. Et il en ressort, ça. Il en ressort qu'il y a... Alors, il y a des chiffres, parce que c'est intéressant de voir les chiffres. Et petit détail, la voiture, pour être collectionnable, il faut que la production soit arrêtée. On ne pouvait pas collectionner les deux chevaux avant que la production soit arrêtée, même si elle avait plus de 30 ans. Vous voyez, c'est un petit...
Mais oui, ce n'est pas une voiture de collection
tant qu'elle est produite. Ouais. Hein, voilà.
Il y, bon. Y en a des voitures...
Non, qui... à l'heure actuelle, il n'y en a plus. Ouais. Maintenant, c'est le turnover. Hein. Ouais. Alors, en 40 000, en 2021, il y avait 400 000 collectionneurs. C'est pas pour un million de voitures. Donc 2,5 voitures par collectionneur. Nous, ici, à Gradignan, on a un peu plus, parce qu'on a grosso modo 350 voitures pour 120 membres.
Donc voilà. À peu près 3 voitures, 3 voitures par tête de pipe. Par membre. Alors, c'est quoi vos voitures à vous?
Ça va de tout. Ça va de la 4L à la Lincoln. Il y a vraiment c'est un large spectre là. Je peux vous dire qu'il y a tout est représenté des tacos, des B14, des C5, il y a vraiment vraiment de tout dans notre club.
Et vous, les vôtres voitures?
Mes voitures à moi, oui. Moi j'ai des voitures, comme je disais, on a fait notre premier rallye extérieur, on a fait un rallye qui était de très haut niveau, pas au niveau sportif, au niveau gastronomique et touristique, et tous les gens qui participaient avaient 6 voitures en moyenne. Mais 3 Ferrari, 2 Rolls, etc. Et au cocktail d'entrée, nous aussi, on avait 6 voitures. Mais on était moins glorieux. On est arrivé à ce rallye avec une Lomax. Une Lomax, c'est une petite voiture bleue qui tourne sur Gradignan, une voiture bleue à 3 roues, sur une base de Citroën, c'est-à-dire c'est un train à vent de Citroën. C'est très ludique. Et on a aussi 6 voitures, c'est-à-dire que j'avais donc la Lomax, j'ai une 2 chevaux, j'ai une Fiat 500, j'avais une 4L à l'époque, j'ai une traction, j'ai une Riley 1959, j'en ai quand même une 306 cabriolet.
Voilà. La 306 cabriolet, c'est
elle n'est pas encore collection.
Voilà, ouais, hein. Mais presque.
Elle va devenir dans les 99, donc ça ne va pas tarder. Oui, 7 ans.
Dans quelques années encore, il faut attendre.
Tout à fait.
Et toi et tes voitures, Nicolas?
Alors moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai moins que monsieur. Moi j'ai une Fiat X9,
oui.
Voilà, de 1981.
C'est bon pour les rallyes.
Voilà, ouais. Et j'ai une Lotus Elan, mais plus récente, de 92.
Ah oui.
Voilà, la Lotus Elan M100.
C'est une bombe.
De 1992. Voilà. Alors c'est très difficile pour trouver les pièces par contre. Surtout avec le Brexit, c'est très très compliqué.
Ah voilà, parce que...
Dès qu'il y a un problème sur la voiture, eh ben, elle est immobilisée pendant longtemps. Donc je ne suis pas sûr que c'était un bon choix d'acheter une Lotus Elan de 1992. Mais quand elle fonctionne, quand elle roule, eh ben, c'est très très agréable, oui, c'est à conduire.
Alors l'avantage des voitures anglaises, c'est que malgré tout, elles sont toutes produites par à peu près la même usine. Et on trouve des pièces. Moi j'avais une Riley. C'est les mêmes pièces que les Wolseley, c'est les mêmes pièces que certaines Austin. Mmh.
Alors les vieilles Lotus, on arrive à trouver plus facilement les pièces que pour ce modèle-là.
Voilà.
C'est un peu plus compliqué.
Voilà. Le chiffre d'affaires de la voiture de collection, parce que c'est pas du tout désuet, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires par an et 24 000 emplois. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait anodin, hein,
Il faut dire une chose sur les voitures de collection, c'est que c'est aussi un investissement. On sait aujourd'hui que mettre de l'argent à la banque, eh bien, ça rapporte presque rien aujourd'hui. Quand on voit les taux, c'est vraiment dérisoire. Donc pourquoi pas acheter une voiture de collection, sachant que dans quelques années, eh bien, elle vaudra plus cher que le prix que vous l'avez payé aujourd'hui. Et puis vous faites plaisir entre-temps. Alors, ça dépend si on a des embêtements avec, bien sûr, au niveau mécanique, etc. Mais franchement, c'est quand même un bon investissement parce qu'on s'y retrouve. Après, il faut avoir envie de la vendre aussi. Ça, c'est plus difficile. On s'y attache.
On s'attache. On s'attache. Mais là, moi, je viens de vendre ma Riley parce que c'est une voiture... je ne m'en servais, je faisais plus de rallye. Et je m'en servais qu'une fois par an pour faire une journée de roulage. Alors ça fait une voiture pour une journée par an, c'est quand même beaucoup. Et quand on la prend en plus, Il y a une fuite par-ci, une fuite par-là, les freins qui ne marchent plus, etc. Donc c'est tout un... Alors c'était vendu, voilà.
Alors vous, dans votre club, on l'a bien compris, vous aidez mutuellement. Comment ça se passe? Il y a des spécialistes de la mécanique?
Oui, il y a vraiment des gens qui sont... il y a des membres, il y a 2-3 membres qui ont refait leur voiture complètement. Il y en a un qui l'a fabriqué à partir de quelques pièces, il a refait la voiture. Mais c'est une Alpine, une berlinette. Quand je dis qu'il l'a refaite, c'est qu'il a fait la carrosserie, il a moulé, il a tout refait. Un autre qui a fait une 203 décapotable, il a mis 22 ans à la refaire. Voilà, quand on parle d'investissement... Alors, c'est la moyenne des voitures à l'achat en collection, c'est moins de 10 000 euros. Donc, ce n'est pas une fortune. Mais après, on y passe du temps. Il faut du temps. Alors, quand on ne sait pas faire, c'est mon cas. Moi, il n'y a qu'une chose que je cherche à faire, ce sont les chèques. J'appelle des copains qui viennent m'aider à faire les réparations qui sont nécessaires. Alors, on les appelle pas, on change un petit peu pour ne pas embêter toujours les mêmes, mais il y a des vrais spécialistes, on a des mécaniciens, des anciens garagistes qui sont à la retraite et qui sont membres du club. Il y en a même 2 qui n'ont pas de voiture. Donc, ils sont contents de...
Oui, on peut adhérer au club sans avoir forcément une voiture de collection.
Non, si on a des compétences, ça nous intéresse. Voilà. Si on a une voiture, c'est mieux, parce que quand on fait une sortie, on reste sur le banc, c'est pas très amusant. Voilà.
Et pourquoi c'est important aujourd'hui en 2022 de préserver le patrimoine automobile?
Alors c'est comme tout patrimoine. Pourquoi on garde les tableaux de Gauguin? Pourquoi on garde les vieilles l'argenterie, etc.? Parce que c'est un patrimoine industriel. Vous avez des voitures, on parle de voitures de collection, il y a des voitures qui ne seront jamais collectionnables parce qu'elles n'existent plus. Vous avez eu différentes lois, les lois de Juppé, qui ont détruit tout un pan automobile.
C'était quoi, la jupette, c'est ça?
Oui, ce qu'on appelait la jupette. Aller trouver une Alpha Sud, une Simca 1100, alors je ne dis pas que ce sont des voitures de rêve, mais ça fait partie, c'était un patrimoine. Mais il n'y en a plus, ça ne peut pas se trouver. Les R6, on en trouvait encore dans le lot, parce que les papys l'avaient acheté, ils l'ont gardé jusqu'au bout. Mais elles sont rongées jusqu'à l'os. Voilà, il y a. Alors la question c'était pourquoi? Pourquoi avoir
pourquoi une... valoriser
Parce que on ne sait pas d'abord de quoi l'avenir est fait. Et puis on va parler d'un sujet qui est dans l'air du temps. C'est les ZFE. Les ZFE, vous avez. Alors beaucoup ne comprennent pas ce qui va leur arriver. Mais certaines villes vont interdire les voitures 5, 4, 3. C'est-à-dire que c'est 80% du parc automobile français. Hein, et ils ne pourront pas circuler. Nous, on pourra aller en ville avec nos voitures de collection. Parce qu'on est un patrimoine roulant. Alors, le patrimoine roulant, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut pratiquement. Voilà. Alors, sauf les jours de grandes piques, etc. Ça, on ne pourra pas y aller. Mais c'est un des avantages. Autre avantage, c'est que le contrôle technique, c'est tous les 5 ans. Au-dessus de 1960, c'est plus obligatoire. Avant 1960, c'est plus obligatoire. Voilà, ce sont des petits avantages.
Mais c'est comme ça aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'une législation... empêche les voitures de collection à terme de rouler dans les villes?
C'est une bagarre constante. Pour l'instant, on est en train programmer. C'est une enquête sur Bordeaux Métropole. C'est une enquête qui commence maintenant, qui va finir à la fin du premier semestre, sur les ZFE. En parler, parce que c'est 28 communes de la Bordeaux Métropole qui sont concernées. Même Gradignan qui n'a que quelques mètres carrés qui sont intra-rocades, même Gradignan est concerné. C'est un vrai sujet. Bon, il va falloir y passer. Mais ça va laisser beaucoup de gens sur le carreau. Donc ça va être, à mon avis, il n'y a pas de... c'est pas clos, le sujet n'est pas clos. Et je crois qu'on faut... Pour l'instant, c'est un grand... c'est une grande peur. Mais je ne suis pas sûr que tout arrive à échéance.
La voiture aujourd'hui dans l'espace public, elle fait beaucoup de débats, notamment par rapport à l'écologie. Qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à la voiture? Est-ce que on sera amené malgré nous à la délaisser complètement?
Alors, je suis un électrosceptique. Donc déjà, ça plombe le sujet.
La voiture électrique, grand débat aussi.
Voilà, c'est un autre débat, c'est un grand débat. Je suis électrosceptique parce que c'est, à mon sens, c'est un piège. J'entends par là qu'une voiture électrique, pour être produite, avant qu'elle soit produite, elle consomme, enfin elle dégage plus de CO2 que la même voiture thermique pendant 10 ans. Donc le choc, il est immédiat. Parce que pour faire une batterie, on ne va pas citer les marques, mais pour les grandes voitures, pour faire une batterie, il faut remuer 2000 tonnes de minéral pour extraire les lithium, machin, etc. Et les engins qui les manipulent, ce minerai, consomment 1000 litres par jour. Donc déjà, on fait le calcul et vous voyez un peu ce que ça donne. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, je suis un petit peu électrosceptique. Et ensuite, les gens qui en ont, si c'est pour faire de la ville avec une petite voiture, en dessous de, je crois que c'est 500 ou 660 watts, ça peut marcher. Au-delà, c'est de la... ça surconsomme. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si vous avez une Zoé, ça peut aller pour faire 15-20 km, aller chercher le pain, les enfants à l'école, c'est parfait. Si c'est pour aller de Bordeaux à Toulouse, c'est pas la peine d'y penser. Ma voisine est arrivée de Toulouse, c'est une nouvelle voisine qui a aménagé, elle a une BMW, c'est la 3, je crois, 3i, elle a mis 4h30 pour venir de Toulouse. Parce que sa réserve était pas complète. Arrivée à Casteljaloux, il y avait sur son GPS, il y avait une station. La station n'était pas fermée, elle était occupée. Deux voitures attendaient. Bon. L'autre station était hors d'usage. Et la quatrième station, elle a dû attendre trois quarts d'heure pour faire son plein. Voilà. Donc ça fait des voyages qui ne sont pas toujours faciles à mener.
Le problème de la voiture électrique, c'est qu'on demande d'utiliser moins d'électricité pour l'hiver qui arrive, etc. Et on exhorte les gens à acheter des voitures électriques, alors qu'on n'est pas capable de produire assez d'électricité, déjà pour ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et on nous dit, ben voilà, la voiture électrique, c'est l'avenir. Alors déjà, ça veut dire que la France devra acheter plus d'électricité dans les autres pays, ou alors produire plus d'électricité, mais pour l'instant, on n'en est pas capable. Donc déjà, ça pose cette question-là, parce que recharger une voiture en termes de coût énergétique, c'est pas rien, voilà. Et si c'est tous les soirs, voilà. Ensuite, il faut voir aussi les habitations. Ceux qui ont un garage pourront recharger leur voiture chez eux, peinard, mais les autres, ceux qui sont garés dans la rue, en double fil, ou qui ont deux voitures par ménage, chose qui est souvent le cas aussi dans les ménages, d'avoir pas qu'une voiture, mais au moins deux voitures, ils font comment pour recharger leur voiture ? Voilà. Et après, au niveau des longues distances, ce que vous disiez, dans les stations-service, il n'y a pas du tout assez de bornes qui sont prévues pour recharger les voitures. Alors comment on fait en période de vacances, où tout le monde aura sa voiture électrique à recharger ? Donc pour moi, en tout cas, la France n'est pas du tout prête pour faire ce choix-là. Et pourtant, il est fait. C'est-à-dire que le gouvernement pousse les automobilistes et les constructeurs de voitures à aller dans le tout électrique. Mais pour moi, il ne faut pas se voiler la face, en fait. C'est que c'est pour sauver aussi la filière des concessionnaires de voitures, des marques, etc. Ça recrée quelque chose autour de la voiture et ça crée une nouvelle demande, en fait, la voiture électrique. Mais pour moi, le pays n'est pas du tout prêt à cette technologie-là. Et il faudrait peut-être investir dans d'autres technologies. On pense à l'hydrogène ou à d'autres, peut-être d'autres moyens de rouler, quoi.
Justine, je t'ai vu te rapprocher du micro.
Ouais, j'avais une question. Donc, si je comprends bien, et puis j'avais eu des échos similaires. Plus une voiture électrique est lourde, en fait, à construire et à utiliser, moins elle est intéressante au niveau de son impact. Et en effet, en période de vacances, sur un modèle de voiture individuelle, un modèle de voiture, une voiture ou deux voitures par famille, on peut pas avoir quelque chose de tenable. Mais du coup, est-ce que ce serait pas peut-être aussi le modèle de la voiture individuelle qu'il faudrait questionner plus que le modèle de la voiture électrique?
C'est la façon de se déplacer qui va être à remettre en cause. Mais pour l'instant, on met la chèvre avant les bœufs. On ne peut pas, ici, Gradignan, on n'aura pas le tramway. C'est tombé à l'eau pour quelques décennies. Moi, je ne le verrai jamais. Donc, pourtant, la France est le pays le mieux équipé. On a heureusement gardé quelques centrales nucléaires. L'année dernière, il y a 2 ans, il était question de les mettre à la poubelle. Maintenant, on les répare. C'est pas encore fini, mais ça, on va être les producteurs d'électricité les moins chers de l'Europe. L'Allemagne, à côté de nous, est beaucoup plus chère. Vous avez des pays qui ont des voitures électriques, mais le coût au kilomètre est 2 fois plus cher que chez nous, parce que la production d'électricité n'est pas nucléaire. Alors après, ce sont des débats. C'est amusant parce que ce ne sont pas des débats que j'entendais, que je pensais entendre dans une radio de jeunes, qui devraient être, au contraire, des pro-électriques. Mais vous avez raison de dire qu'on manque d'électricité et on nous met au tout électrique. Donc il va falloir trouver à un moment donné une solution pour faire autrement. La solution, elle a été trouvée, je crois que c'est Toyota qui a trouvé une solution, c'est de faire des voitures avec générateur intégré. Alors c'est gentil, comme tout sur le programme, c'est-à-dire que c'est comme nos vélos avec une dynamo. C'est-à-dire quand on décélère, ça charge, mais quand on veut accélérer et qu'on n'a plus d'électricité, il y a un moteur annexe qui ne sert pas à la motricité, c'est interdit en 2035, ça sera interdit, mais qui sert uniquement à produire de l'électricité. C'est plus joli que d'avoir une remorque avec un groupe électrogène. Mais ça consomme autant que la voiture thermique du même modèle. Donc on est dans des leurres complets. Vous parliez des voitures, des SUV, des grosses voitures. Vous voulez acheter, c'était une marque, si vous voulez, emblématique, on va prendre un Cayenne ou une Panamera, berline ou normale, enfin thermique, vous allez payer 50 000 euros de taxes. Ça fait mal. Vous ne voulez pas payer ces 50 000 euros de taxes, vous achetez le même en hybride. C'est zéro taxe. Ça pèse 250 kg de plus et ça consomme 1 litre de plus ou 2 litres de plus. Donc le résultat, c'est l'État. Je ne comprends pas que l'État ait pu se faire berner à ce point-là. Parce que c'est une fraude fiscale organisée par l'État. Je ne comprends pas. J'avoue, à l'heure actuelle, je voudrais acheter un Cayenne. J'achèterais un Cayenne hybride sans me servir du côté hybride. Voilà. J'aurais un Cayenne qui est le même que tout le monde, mais je n'aurais pas payé 50 000 balles de taxes.
On peut toujours contourner, hein, de toute façon.
Mais on est dans des aberrations qui se juxtaposent. C'est un peu difficile d'avoir une pensée qui soit juste. Pour l'avenir. L'avenir, il est certain que l'électrique sera dans l'avenir. Il est certain que l'hydrogène y sera. Il y aura différents modes de déplacement, mais le déplacement collectif existera. En France, je ne sais pas s'il sera généralisé, parce qu'on est très individualiste, mais dans bien des pays, ça sera la solution. Pour notre journée planter des arbres...
Oui, parce que...
Et oui, puisque c'était l'actualité du jour.
Planter des arbres, parce que ce n'est pas une idée qu'on a eue. C'est une idée que j'ai prise à la volée, parce que c'était initié par la FFVE, donc la Fédération française des véhicules d'époque, qui avait prévu de planter, 300 000 arbres ou quelque chose comme ça. Ils en ont planté 100 000 cette année. Ils en ont déjà planté 100 000. Et donc, nous, on s'est dit, il y a 2 ans, on était 100 membres. Donc c'était un symbole. 100 membres, on plante 100 arbres. Les arbres sont les éléments sur Terre qui sont les producteurs d'oxygène avec l'océan. Il n'y en a pas d'autres. Donc plus on plante d'arbres, plus on aura d'oxygène et plus ils absorbent de carbone. Donc c'est une règle. Donc là, le symbole, c'était on a 100 membres, on fait 100 arbres. Donc il fallait trouver un terrain, ça a été un peu difficile, il y a eu la pandémie. Bordeaux Métropole, l'air de rien, a lancé une opération où ils vont planter 1 million d'arbres sur 10 ans. Alors ça ne sera pas une forêt, ça sera des arbres sur le long d'une route, etc. etc. Et il y en a un peu, ça va être un peu partout, disséminé. Gradignan a aussi un programme, pendant la mandature de M. Labardin, il sera planté 5000 arbres. Donc c'est vraiment... C'est une prise de conscience qu'on peut corriger un petit peu le fait d'émettre du CO2 avec nos voitures. On peut le corriger un petit peu en plantant des arbres. Voilà, c'était le deal qu'on s'est donné. Bon, après, l'histoire du CO2, quand vous prenez des chiffres, quand vous voulez prendre des chiffres, vous avez sur les émissions d'automobiles, vous avez tout. Tout et n'importe quoi et son contraire. L'exemple a été, pendant la pandémie, le périphérique parisien a eu une diminution de circulation de 77%. Les émissions de CO2 n'ont baissé que de 7%. On ne peut pas dire vraiment que ce sont les voitures qui polluent Paris, si on prend ce calcul-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se voiler la face. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus charger les voitures de tous les maux. C'est voilà le souci.
Et la voiture, c'est peut-être aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand on parle souvent de responsabilité individuelle par rapport à l'environnement, à notre impact individuel, il y a aussi la voiture. Alors qu'en fait, on sait très bien que le problème, c'est les lobbies, c'est l'agriculture, c'est notre mode de vie, de production. Et que la voiture à côté, c'est un peu plus dérisoire.
La voiture, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est pas agréable quand on sent les gaz d'échappement.
Oui, il y a la pollution locale.
Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui souffrent de problèmes respiratoires. Et ça, c'est un vrai problème quand même. Mais ça, c'est dans l'amélioration des moteurs. Il faut se poser ces questions-là.
Il y a qualité de l'air et pollution et environnement.
Voilà, il y a peut-être des moteurs qu'il faudrait peut-être mettre de côté. Peut-être que les filtres à particules font passer leur travail. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Parce que c'est vrai que quand on habite près d'une route où il y a beaucoup de voitures qui passent, on ne peut pas dire que la qualité de l'air soit quand même au rendez-vous.
Non, ça c'est très clair. Non, il ne faut pas se voiler la face. Oui. Mais les chiffres, on donne tous les chiffres. On dit que le transport, c'est ce qui pollue le plus, c'est ce qui produit le plus de CO2. Petite étude qui a été faite dans les années 90 montre que les avions, ça représente 2,8. Ce n'est pas la peine d'arrêter les supersoniques, là. Les voitures représentent 11,2, les poids lourds 8,4, les bateaux 2,8, la production électrique 31,5, c'est-à-dire plus que tous les transports réunis. Donc on se pose la question sur l'avenir de l'électrique. En 2017, une autre étude montre que la production énergétique représente 14%, l'industrie 21%. Ça, on ne pourra pas le réduire, très peu. On achète de la décarbonation à gauche ou à droite pour se donner bonne conscience, mais on ne réduit pas ce qui se passe. Voilà. Le secteur résidentiel, 23%. Les transports, 38%. Voilà, donc les chiffres sont à peu près, ne sont pas cohérents, mais de temps en temps, on met tout ce qui pollue. De temps en temps, on met qu'une partie de ce qui pollue. Donc on n'a pas des chiffres qui sont justes. Voilà. Maintenant, on est capable, on parle de l'avenir, les constructeurs sont capables de faire des moteurs diesel qui, pendant un temps, ne polluait pas, paraît-il. Il y a eu 20 ans ou 30 ans pendant lesquels le diesel, ça ne polluait absolument pas. Ça sentait pas bon, mais ça polluait pas. Bon, mais après, ça s'est mis à polluer d'un seul coup. Mais on est capable, Peugeot et Renault savent faire des moteurs qui consomment 2,5 litres au 100 km. On n'a pas besoin d'avoir des V8. C'est pas la peine d'avoir des V8 diesel. Pour rouler à 130 sur l'autoroute et 110 sur les voies de... On peut pas s'exprimer. Donc
à 90 sur la rocade.
Voilà. Il n'est pas question de tous avoir des trabants. Mais on est capable de faire des moteurs qui ne sont pas très, très consommateurs, donc pas très polluants. Vous avez parlé des filtres à particules. Une étude des filtres catalytiques, les pots catalytiques, pardon. Une étude allemande a montré que les particules fines sont dues au pot catalytique. Donc 25 kg de plus, grosso modo 1,5 litre de plus au 100 km, pour générer des microparticules comme le diesel le faisait. Il y a du lobbying qui s'est produit, on ne sait pas où c'est. Je ne sais pas quel fils de ministre ou quel...
Non, mais de toute façon, c'est notre mode de vie. Et je pense que malheureusement, les Français, mais pas que les Français, c'est que ce confort qu'on a quotidien, etc., on n'est pas prêt de l'abandonner, en fait. Il faudrait complètement changer de vie si on voulait vraiment, moi je pense, agir vraiment durablement sur l'environnement, etc. C'est difficile aujourd'hui avec les modes de vie qu'on a, on est de plus en plus éloigné de notre lieu de travail. Donc, puisqu'en les villes sont saturées, donc on construit en périphérie des villes, mais après, il faut bien pouvoir rejoindre la ville pour travailler. Donc, les transports en commun étant ceux qui sont, à Bordeaux notamment, avec les trams, les rames de tram qui sont aussi de plus en plus saturées. Donc, imaginez les transports en commun, imaginez quelque chose d'autre à Bordeaux, par exemple, pour les transports en commun, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, la voiture, elle n'est pas prête d'être rangée au garage. Hein. Voilà. Donc, comment on fait ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Je ne suis pas sûr que dans le mode de vie qu'on a actuellement, les solutions sont nombreuses. Je ne suis pas sûr.
Hier soir, aux informations, vous aviez une enquête sur à Chartres où la cathédrale ne se voit plus. Depuis la route nationale, la cathédrale ne se voit plus parce qu'en première ligne, on a et des supermarchés et des zones industrielles, etc. Donc on ne voit plus la... Et les questions, c'est un projet, mais c'est peut-être un projet qui n'est que sur papier, de changer ça, de raser et de recentrer les intérêts économiques. Et il est vrai que quand vous voyagez, on a tous fait l'expérience de voyager à travers la France, toutes les villes sont semblables. C'est-à-dire qu'on a partout la même entrée de ville avec un point P, un machin, un McDo, un KFC, un Carrefour. Et quand il y a Carrefour, il y a toute la panelle de magasins qui vont avec, etc. etc. Mais toutes les villes sont identiques. Il n'y a pas une qui est différente de l'autre. Ça, c'est vraiment un appauvrissement qui n'existe pas dans certains pays. Vous allez en Hollande, le centre-ville, il y a encore des petits commerces qui sont spécialisés et qui font leur beurre. Parce qu'il n'y a pas de supermarché à l'extérieur. Donc il n'y a pas de voiture, ils font ça à vélo. Alors pourquoi pas suivre cet exemple ? Parce que, ou en Espagne, c'est à peu près la même chose. Les villes sont des mégalopoles. Quand vous prenez une carte espagnole, vous avez du jaune. Et d'un seul coup, vous avez un pavé rouge. C'est une ville. C'est énorme. Mais quand vous sortez de la ville, l'agriculture a repris. Nous, on sort de la ville, on va de Bordeaux à Libourne, il n'y a que des maisons. Parce que on fait des lotissements, etc. etc. Et le lotissement est une aberration écologique à construire et à vivre. À vivre parce que c'est énergivore, parce que y a des réseaux qui sont à amener, etc. C'est une aberration. Mais on ne vit en France, malheureusement, c'est notre caractère, on ne vit que d'aberration. Donc on ne va pas revenir dessus. c'est comme ça.
Et puis Nicolas, tu parlais de notre confort de vie. Il ne faut pas oublier aussi que les pays occidentaux vivent au crochet des énergies fossiles qu'on va chercher ailleurs. Et c'est nous, les pays occidentaux, qui polluons le plus, alors que d'autres pays ne peuvent pas polluer autant, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même mode de vie que nous. Et il y a aussi toute la question des pays développés, que certains pays sont en train de se développer, et eux aussi veulent gagner le confort de vie que nous, on a. Donc c'est vrai que c'est un débat un peu sans fin. Et aussi, on parle de la France, il ne faut pas oublier que la France représente un tout petit pourcentage des émissions de CO2. Après, on ne parle pas de Total ou de Perenco, par exemple, comme dont tu nous as parlé plus tôt, Justine, qui, eux, vont piller des ressources, etc. Mais c'est vrai que le problème majeur, ça reste quand même la Chine et les États-Unis, et que si eux ne font pas de choix drastiques, majeurs, pour changer leur mode de vie, c'est même pas la peine. C'est un peu défaitiste de le dire comme ça, mais nous, on peut améliorer localement notre mode de vie, mais après, pour ce qui est des émissions mondiales... C'est un peu compliqué.
Ouais. Moi, je trouve que ça pose aussi la question de la réintégration des externalités négatives. C'est un peu technique, mais si la pollution française, au sens de tout ce que les entreprises françaises produisent comme pollution, a été sur le territoire français, on ne s'en sortirait pas. D'où notre externalisation des déchets, d'où, par exemple, Total, qui va détruire l'environnement, mais à l'autre bout de la planète. Et un mode de vie individuel qui va polluer localement avec, par exemple, une voiture qui va nous envoyer une odeur pas très agréable à la tête quand on est en vélo derrière. C'est agréable, mais si on était face aussi à toute la pollution que juste cette voiture engendre au niveau global, je pense qu'il y aurait peut-être aussi une prise de conscience un peu plus forte. Mais vu que c'est loin, ça nous paraît peut-être un peu moins important.
Oui, puis dans votre raisonnement, vous oubliez les pays, les continents, qui ne sont pas encore développés et qui ont bien envie de se développer, qui ont bien envie d'avoir des industries qui seront polluantes comme les nôtres, etc. etc. Alors pour l'instant, on s'en sort, on paye des primes, enfin des amendes, on revend le droit à polluer avec ces primes de décarbonation. Ce sont des hérésies, enfin c'est comme ça, au lieu de faire un effort, on paye. Ben voilà, on a bonne conscience, j'ai payé, je continue.
Mais c'est sûr, avec tout ce qui est la question de la décarbonation et de la compensation d'émissions de CO2, en soi, on prenait l'exemple de Total, qui dit aussi qu'ils essayent d'investir dans des projets pour compenser leurs émissions, mais en fait, la compensation n'est pas totale. La compensation est intéressante, mais la meilleure pollution, c'est celle qui n'existe pas et qui n'a pas été produite en premier lieu. Donc forcément, on peut vite tourner en rond là-dedans. Quoi.
Oui, mais on a... une des plus grosses pollutions que l'on ait actuellement, c'est la déforestation de l'Amazonie. C'est 20% du CO2 qui est produit dans le monde. C'est énorme. Et si on ne s'arrête pas, ça va être... C'est une bombe atomique, quoi.
Alors, au début, donc, on parlait de l'association Les Calandres d'Antan, et ça pouvait sembler paradoxal. Moi, je m'étais posé la question, mais alors, c'est une association de voitures, mais qui plante des arbres. En tout cas, on peut voir que les deux vont de pair, qu'on peut tout à fait être amateur de voitures et avoir une conscience environnementale et se soucier de son environnement local, justement.
Alors, un sourire, je dis, nos voitures, elles polluent pas, elles sentent pas bon quand elles passent de temps en temps. De temps en temps, elle largue une bouse. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de microparticules, nous. Il n'y a que des proutes qui sont énormes, mais pas de microparticules. Nous, c'est du macro. C'est énorme.
Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, au début de l'émission, on ne roule pas beaucoup avec les voitures de collection.
Voilà. Non, non.
Déjà, elles sont en garage 5 jours sur 7, la plupart du temps.
Souvent, oui, oui, oui.
Voilà. Et après, on va faire quoi? On va faire 50 km le samedi pour aller dîner en famille avec sa voiture de collection. Et puis on rentre le soir, je veux dire, c'est pas des émissions de CO2 énormes.
Non. Je suis un très gros rouleur, moi, avec mes voitures anciennes, parce que je fais plus de 10 000 km par an avec mes voitures.
Toutes cumulées.
Voilà.
Parce qu'on ne roule jamais avec deux voitures
en même temps. C'est très rare. Pourtant, j'en ai qui sont conduites à droite et d'autres sont conduites à gauche.
En tout cas, on arrive déjà au terme de cette discussion, de cette interview. Un grand merci, Olivier Boucheron. Si on est intéressé, si on est curieux pour les Calandres d'Antan, on fait comment pour vous contacter ou venir voir?
Alors, vous avez les Calandres d'Antan de Gradignan, vous avez des pages Facebook. Sinon, pour venir nous voir, le quatrième dimanche de chaque mois, le matin, on est sur le parking du lycée des Graves. Donc ça, c'est ouvert au public. Il y a suivant la météo, entre 100 et 250 voitures. Voilà. Parce que faut dire que les voitures anciennes, pour certaines, n'aiment pas beaucoup l'eau. Ça craint l'eau. Voilà.
Il y a des risques de corrosion.
Des corrosions, il y a des toiles, il y a des capotables.
Il vaut mieux pas les sortir, voilà. même capote mise.
Parce que ça fuit un peu.
Ouais. Disons qu'on prend l'eau un petit peu.
Voilà, tout à fait. Voilà.
Campus Bulldog 88.1.
Radyosunda 88.1'desiniz.
Eh bien, à nouveau, un grand merci Olivier Boucheron-Seguin, et puis un grand merci à toi Justine et à toi Nicolas. C'est à présent la fin de ce Café Campus pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute.